Nous étions au numéro 16 du troisième jeu de texte, page 3 de ce jeu, et nous étions dans la distinction entre le fait de vouloir, élément naturel de la volonté, mais qui implique le libre arbitre, l'autodétermination, ça fait partie de notre nature. Tout être humain, en principe, s'il n'est pas handicapé, doit pouvoir s'autodéterminer. Et puis le mode déterminé de vouloir, qui lui relève de la personne. Voilà ce que dit Maxime, donc au numéro 16. C'est dans la dispute avec Pyrrhus qui a été vraiment un des grands moments de la querelle monothélite, parce que Pyrrhus était pratiquement l'auteur probablement du monothélisme, et il est venu à Carthage, et là il y a eu une dispute publique, une discussion publique, et Saint Maxime a réussi à le convaincre, et donc après ils ont fait le voyage ensemble à Rome, où Pyrrhus, qui était l'ancien patriarche de Constantinople, a été faire sa confession de foi auprès du pape et être réadmis dans la communion. Il avait été excommunié à cause de sa foi monothélite. Donc, lisons ce texte. Le fait de vouloir et le mode déterminé de vouloir ne sont pas identiques. Parce que les monothélites disaient, mais si le Christ a deux volontés naturelles, il va être en contradiction avec la volonté divine. Il va y avoir oscillation, etc. C'est ça qui a amené Maxime à distinguer nettement la volonté, l'autodétermination naturelle et le mode déterminé de nos choix, qui lui est personnel, et donc... du coup, à dire que le Christ, lui, ne se déterminait pas de manière gnomique par un libre arbitre délibératif, mais, je dirais, par une obéissance filiale qui était le propre de sa personne trinitaire, le mode d'exister de sa personne trinitaire, se communiquait à son humanité. Donc, le fait de vouloir et le mode déterminé de vouloir ne sont pas identiques, tout comme ne le sont pas non plus le fait de voir et le mode déterminé de voir. Je disais, des témoins d'une même scène verront cette scène avec la même capacité naturelle de voir, mais suivant que le sujet se trouve à tel ou tel endroit, il va la voir sous un certain angle, sous un certain point de vue. Et qui dit cela pour la vision extérieure ? Nous savons bien que nous utilisons l'expression « point de vue » pour dire un angle d'attaque d'une question. Très souvent, c'est ça qui est intéressant dans un conseil, dans une discussion, etc. C'est qu'on a des points de vue qui tiennent à la situation subjective qui est la nôtre, à nos circonstances, etc., qui fait que nous abordons une question par des angles qui sont assez différents. Et c'est tout l'intérêt, effectivement, de l'échange, du conseil, etc. Surtout dans le domaine pratique où c'est encore plus important. Car le fait de vouloir comme celui de voir, continue Maxime, relève de la nature. Il revient à tous ceux qui ont la même nature et appartiennent au même genre. Le mode déterminé de vouloir, quant à lui, comme celui de voir, c'est-à-dire vouloir se promener ou ne pas vouloir se promener, voir ce qui est à droite ou ce qui est à gauche, ou en haut ou en bas, ou par convoitise, ou pour comprendre les principes essentiels qui sont dans les êtres, voyez, là on entre même dans les motivations, est un mode de l'exercice du vouloir et du voir. Il relève seulement de celui qui les exerce, voyez, le mot est ici, crésis, l'exercice, et les sépare des autres selon la différence communément dite. C'est ainsi que Maxime met une sorte de prolongement, ce qui au niveau des natures est un mode d'exister personnel, au niveau des opérations et de la volonté en particulier, est un mode d'exercice personnel. Mode d'exister au plan de l'ontologie incitative, mode d'exercice dans l'ontologie opérative. Ça va, c'est à peu près clair. Si vous avez des questions de clarification, nous laisserons ensuite, probablement nous aurons la deuxième heure pour des questions d'élargissement. Là, gardons uniquement des questions de clarification si vous ne comprenez pas, si vous achoppez dans ce que je dis. Le numéro 17 vous montre que la position de Saint Jean Damascène et de Thomas d'Aquin est la même. Ici, je cite un texte de Thomas d'Aquin qui, en fait, est une réponse à une objection qu'il s'est mis lui-même dans la Somme, dans la Tertia Pars, donc dans le traité du Christ, en utilisant un texte de Jean Damascène. Vouloir, d'une certaine manière, dit Thomas, désigne bien un mode déterminé de vouloir. Mais un mode déterminé affecte la réalité même dont il est le mode. De ce fait, puisque la volonté appartient à la nature, le fait de vouloir d'une certaine manière relève aussi de la nature, non pas considérée en elle-même absolument, mais envisagée dans telle hypostase. La volonté humaine du Christ, se trouvant dans l'hypostase divine, possédait donc un mode déterminé, car elle était toujours mue au gré de la volonté divine. Quelques petites remarques. La volonté humaine du Christ se trouvant dans l'hypostase divine. Voyez que nous avons là l'équivalent du terme maximien de « en hypostasie ». Nous le trouvons chez un terme que connaît Jean Damascène et que donc saint Thomas reprend. Ceci dit, on sent comment Thomas spontanément ramène les choses plus, les regarde toujours du côté de la nature. Vous voyez qu'il a dit dans la phrase précédente que puisque la volonté appartient à la nature, le fait de vouloir d'une certaine manière relève aussi de la nature. Bien sûr, parce que si je n'ai pas la capacité de vouloir, je ne peux pas vouloir d'une certaine manière. Mais non pas considérée en elle-même, mais envisagée dans telle hypostase. Et ici, il dit, la volonté humaine du Christ, se trouvant dans l'hypostase divine, possédait donc un mode déterminé, car elle était toujours mue au gré de la volonté divine. On a l'impression que saint Thomas voit uniquement le mode déterminé de la volonté humaine du Christ dans son instrumentalité, c'est-à-dire dans le fait d'être toujours mu au gré de la volonté divine. C'est un aspect des choses, mais c'est comme s'il, du coup, il ne considère pas la dimension proprement trinitaire, c'est-à-dire que dans la volonté humaine du Christ apparaît quelque chose de la relation trinitaire à son Père. Et ça, c'est plus pauvre, incontestablement. Voyez, les principes sont exactement les mêmes, et donc vraiment, il n'y a aucun problème. Mais Maxime, incontestablement, comme le père Letton le dit d'ailleurs très bien à la fin de son livre, Maxime considère plus la dimension de l'hypostase, en particulier à cause de ça, c'est que le mode d'exister trinitaire du Christ va être aussi le mode d'exister de son humanité assumée, et donc le mode d'exercice de sa volonté. C'est pas seulement le fait que cette volonté est instrumentalement mue par la nature divine. Of course, oui, tout à fait. C'est évident. Mais elle est mue toujours par la nature, la divinité, parce qu'elle est filialisée. C'est le propre de ce mode d'exister ou de ce mode d'exercice, c'est le mystère filial. Et ça, c'est curieux. Ça fait partie d'une de ces connexions des mystères, peut-être à cause du côté trop analytique de la scolastique, qui a été un peu perdu là chez Thomas. Je crois que c'est vraiment ce qu'on doit donner aujourd'hui, une doctrine très sûre et en même temps plus riche peut-être que celle que de la Somme. C'est de ce côté-là qu'il faut développer. En tout cas, c'est ce que j'essayais de faire dans mon livre. Vous voyez, ce que dit ici saint Thomas, c'est que le mode déterminé de la volonté humaine du Christ, c'est d'être toujours mu au gré de la volonté divine. Mais ça, c'est quand on regarde du côté des natures, effectivement, la volonté naturelle du Christ est émue toujours au gré de la volonté divine du Seigneur. Mais pas n'importe comment. Elle l'était dans l'hypostase du Verbe, dans l'hypostase du Fils, donc filialisée. C'est cet élément de filialisation que saint Thomas ne semble pas considérer. En tout cas, là, je n'ai pas fait une recherche fouillée, si vous voulez, dans la Tertia Pars, etc. Le problème avec saint Thomas, c'est que comme les choses sont très découpées analytiquement, il faut faire sans cesse des lectures transversales pour mettre en connexion tel endroit et tel autre endroit, etc. Je crois que nous allons trouver encore un autre endroit où il est question. Oui, au 21, ça va revenir, Damasène et Thomas. 18, on revient sur la gnomée. La gnomée, ou là, on peut maintenant la traduire comme libre arbitre, comment est-ce qu'on avait dit, mais libre arbitre délibératif. Libre arbitre délibératif. La gnomée, c'est justement, c'est nous, je dirais, c'est toute personne humaine. On a une finalité, mais nous la voyons un peu difficile à discerner. Hein. Regardez les exercices spirituels de Saint-Ignace, c'est fait pour ça, pour discerner où on va. Parce que ce n'est pas évident. La prudence ne s'y retrouve pas facilement. Et en plus, nous sommes embrouillés en nous-mêmes. Nous sommes embrouillés parce que la fin ne nous apparaît pas de manière évidente. Et d'autre part, nous sommes embrouillés en nous-mêmes, parce que nous avons des passions, nous avons une imagination qui est affectée par les passions, etc. Donc, ça fait quand même un peu un imbroglio. D'où la gnomée. Nous avons un libre arbitre délibératif, nous pesons le pour et le contre, nous essayons de voir, etc., sans jamais pouvoir être très sûr de nos actes libres, ni dans leur objectivité, ni encore moins dans notre subjectivité. La gnomée n'est rien d'autre qu'une volonté qualifiée relativement à un bien, soit véritable, soit supposé. Soit supposé, c'est là que le péché, quand nous nous illusionnons sur un bien qui n'est pas un bien réel, qui est toujours un bien réel, parce que nos choix ne peuvent être commandés que par le bien. Mais le bien, il peut être supposé, il peut être apparent. Quand je fais passer un bien inférieur au détriment d'un bien supérieur, quand je désordonne l'ordre des moyens, des biens intermédiaires au bien final, au bien ultime, qu'est Dieu. C'est ça le péché. Mais dans le péché, on est mu par de toute façon, par le concupiscible et par l'irascible, par un appétit de quelque chose qui en soi apporte quelque chose. On ne cherche pas le mal pour le mal, et même celui qui chercherait le mal pour le mal, c'est parce que c'est un pervers qui trouve dans le mal un plaisir. Donc il y a toujours, on ne peut pas échapper à ce principe qui a été très fortement dégagé par Aristote, du plaisir, du bonheur, de la recherche du plaisir et de la recherche du bonheur. Le problème, c'est où est-ce que je mets mon bonheur? Et donc, quelle hiérarchie je mets dans la poursuite du bonheur? Donc, la gnomée n'est rien d'autre qu'une volonté qualifiée relativement à un bien, soit véritable, soit supposée. Et ça indique tout le côté instable de la gnomée, puisque je peux être attiré par quelque chose qui n'est pas un vrai bien. En parlant de gnomée à propos du Christ, on en fait un pur homme. Hein, si on dit que le Christ a une gnomée, si on dit que le Christ a été comme nous, délibéré en se disant, oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais faire ceci, etc. Ou s'il se demandait s'il allait obéir au Père ou pas obéir, etc. À ce moment-là, on en fait un pur homme dont la disposition est liée, comme chez nous, à une délibération qui est en proie à l'ignorance, voyez, c'est pour ça que je pense que ça suppose en fait la vision béatifique, qui est en proie à l'ignorance et au doute et qui a en lui des contraires. Puisque c'est au sujet des questions douteuses et non de celles qui ne le sont pas que l'on délibère. Ah là, j'ai dû m'en manquer un mot, car nous, chez nous peut-être. Non, car nous, il faudrait mettre des virgules, car, virgule, nous, virgule, c'est l'appétit du simple bien naturel que nous avons naturellement. Quant au bien déterminé, nous en faisons le discernement par une recherche et un conseil. Voilà pourquoi il est approprié de parler de gnomée chez nous, vu qu'elle est un mode d'exercice et non un principe de nature, puisque la nature, dans ce cas, subirait une infinité de mutations. Dans l'humanité du Seigneur, qui n'avait pas comme nous un pur subsisté, une pure hypostase d'homme, mais un subsisté divin, et donc filial, on ne peut pas parler de gnomée. Grâce à son être même, c'est-à-dire à son subsisté divin, il avait par nature et l'affinité avec, pour le bien et l'aversion pour le mal. D'où le fait que le Christ ne pouvait pas pécher.
J'ai très bien compris ça. Maintenant, en même temps, je me demande, est-ce que il ne manque pas...
Alors, laissons ces questions d'élargissement, parce que ça, c'est pas une question de compréhension de ce que je dis là. Laissez-la pour tout à l'heure. Hein. Dès qu'on aura terminé ça, on est dans les dernières questions, et après, on passera dans la deuxième heure. Là. Alors, 19. Avant que le petit enfant ne connaisse ou ne choisisse le mal, il choisira le bien. Isaïe 7, 16. Vous savez, c'est à propos du Messie. Cela parce que, avant que le petit enfant ne connaisse le bien et le mal, il répugne au mal pour choisir le bien. Les mots « avant que » montrent en effet que ce n'est pas par une recherche et une délibération comme nous, mais en subsistant divinement par son être même, qu'il possédait le bien à partir de la nature. Vous voyez ici, il y avait une note déjà au texte précédent, texte 18, vous l'avez ici en note 15, le lien de la gnomée et de l'ignorance de l'homme confère, donc dans les suites avec Pyrrhus, le lien de la gnomée et de l'ignorance de l'homme qui n'a pas atteint Dieu comme sa fin ultime et souvent rappelé par sa maxime. La gnomée peut porter des jugements sur les contraires, rechercher les choses qu'elle ignore et délibérer sur les choses obscures. C'est pour ça que je vous dis, l'absence de gnomée dans le Christ supposait une fixation dans le bien qui n'est possible que pour que celui qui voit Dieu. Nous ne sommes fixés de manière définitive dans le bien, une liberté créée n'est fixée définitivement dans le bien que quand elle voit Dieu. Avant, elle peut ontologiquement, elle peut pécher. Or, le Christ ne pouvait pas ontologiquement pécher, d'où ça suppose en fait qu'il voyait Dieu. Il est dans la vision béatifique, quel que soit le mode que j'étudie après dans le chapitre suivant de ce que peut être la vision béatifique du Christ, qui est tout à fait particulière. Numéro 20. L'humanité assumée par Dieu, de Dieu, mais au sens d'assumée par Dieu, n'est pas mue comme la nôtre par l'élection gnomique. Non pas par le libre arbitre naturel, mais par l'élection délibérative. C'est-à-dire par un discernement entre des termes opposés accompli à partir d'un conseil et d'un jugement. Nous aurions peur qu'en raison de cette élection même, elle soit reconnue comme naturellement changeante. Mais ayant reçu son être en même temps que son union au Verbe de Dieu, il n'y a pas eu un instant où l'humanité du Christ a existé, où son âme et son corps ont existé sans être unis au Verbe. Son âme a été créée unie au Verbe, dans la grâce d'union. Mais ayant reçu son être en même temps que son union au Verbe de Dieu, cette humanité possède sans incertitude, ou mieux de façon stable, le mouvement de son désir naturel, c'est-à-dire de sa volonté. Ou pour parler plus précisément encore, elle possède sa stabilité immuable en lui, le Verbe, selon sa plus pure venue à l'être, complètement divinisé par le Dieu et Verbe. En marquant de son empreinte, voyez, là c'est un terme qui jouera un rôle très important pour la théologie de la grâce capitale chez saint Maxime, c'est que la personne du Verbe marque de son empreinte, c'est-à-dire de son mode d'exister filial, son humanité, donc sa volonté. En marquant de son empreinte et en mouvant naturellement sa volonté, comme étant naturellement la sienne propre et celle de son âme, le Verbe accomplit sans feinte aucune le grand mystère de l'économie en notre faveur. Numéro 21, je reviens sur des questions de ces mêmes questions chez saint Jean Damascène et saint Thomas. Dans une question d'un tertia passe, la question 18, saint Thomas se met en objection, un texte où Jean Damascène dit que le Christ n'a pas l'élection, la proie hérésis. Alors, voilà comment il répond, et nous allons voir que c'est exactement ce que vient de dire Maxime dans tous ces textes. Le Damascène refuse au Christ l'élection, pour autant qu'elle comporte de l'hésitation, dubitationem. Mais elle n'en comporte pas nécessairement, car Dieu même fait acte d'élection, selon Paul, il nous a élus en lui avant la création du monde, alors qu'en Dieu, il n'y a pas d'hésitation. Celle-ci intervient en tant que l'élection est le fait d'une nature ignorante. Vous voyez le lien entre la volonté et la connaissance. Je commente, là c'est moi, il avait déjà maintenu plus haut, Thomas, qu'il peut y avoir un choix non délibératif qui n'en est pas moins un choix délibéré. Plus nous sommes mus par l'Esprit Saint, plus nos choix sont non délibératifs, sont par une sorte d'instinct de charité, et néanmoins délibérés. Ils ne sont pas moins libres. Ils sont d'une liberté plus glorieuse, la liberté d'aimer, vous voyez. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que la liberté, ce n'est pas en fait d'être dans l'hésitation entre le bien et le mal. La liberté, c'est aspirer au bien dans l'amour et grandir dans ce bien. Et plus on est connaturalisé avec le bien, plus cette liberté, cette volonté est délibérée sans être délibérante. Vous voyez, en français, le mot délibéré, ça veut dire résolu, c'est-à-dire vraiment c'est ce que je veux. Mais souvent, pour arriver à cet acte poser un acte délibéré, on a été dans une longue délibération. Cette longue délibération est plutôt un signe d'imperfection qu'un signe de perfection. Et vous le voyez très bien dans la vie des saints, comment au fur et à mesure qu'ils avancent en sainteté, ils vont avec une sorte d'instinct, vous voyez, de l'amour qui les guide et qui fait qu'ils font les choses. Leur volonté est docile à la motion de l'Esprit Saint et à ce moment-là, elle est d'autant plus libre. Voyez, et c'est ça qui est très difficile à comprendre dans une conception moderne où, au contraire, ce qu'on veut, c'est valoriser un exercice le plus indépendant possible. Et donc, forcément, plus on est indépendant de Dieu, plus notre volonté est hésitante, changeante, etc. Donc, Thomas avait maintenu plus haut qu'il peut y avoir un choix non délibératif qui n'en est pas moins un choix délibéré au sens habituel que ce mot a en français de librement jugé et déterminé par la volonté rationnelle. Citation, quand le jugement ou la sentence est manifeste sans enquête, il n'y a pas besoin de délibération. La raison dans les cas manifestes n'enquête pas et juge de façon immédiate. Il n'est donc pas nécessaire qu'il y ait délibération pour tout ce que fait la raison. Numéro 22, on agit principalement non pas selon qui on est, mais selon ce qu'on est, c'est-à-dire homme. En tant qu'on est quelqu'un, Pierre ou Paul, on donne forme au mode de notre acte, en le marquant, vous voyez la même idée toujours de le verbe tupo-o, hein, tupos, marquer, en le marquant à la base de notre empreinte selon la gnomée, par relâchement ou par effort, d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est toujours un acte humain, c'est toujours un acte qui vient de notre intelligence et de notre volonté, mais exercé selon une personne qui la marque de son originalité, je dirais. Et dans le Christ, eh bien, quelle est cette originalité personnelle? C'est celle du Fils éternel. Alors, c'est quand même très important, parce que ces actes humains étaient les actes du Fils fait homme. Donc, la personne qui se manifeste là, c'est le Fils. Numéro 23, le grand Grégoire le théologien enseigne dans son deuxième discours sur le Fils, son vouloir au Fils, son vouloir comme homme, hein, n'étant rien contraire à celui de Dieu, étant tout divinisé. De sorte que selon le divin didascal, le divin maître, il, le Christ, avait un vouloir humain, mais ce vouloir n'était pas contraire à celui de Dieu, car ce vouloir n'était pas délibératif, gnomique, mais il était proprement naturel, toujours marqué par sa divinité essentielle et mû pour elle pour l'accomplissement de l'économie, complètement divinisé par l'accord et la communion avec le vouloir du Père. Devenu et dit en vérité proprement divinisé et divin, non par nature, ne sortant pas par le fait d'être divinisé de ce qui est selon la nature humaine. Et vous remarquerez que dans le Christ, son humanité et son vouloir sont divinisés, mais ils le sont divinisés de par l'union hypostatique elle-même. C'est-à-dire que dans le Christ, la divinisation, elle est au point de départ. Elle va se manifester ensuite dans tous ses actes humains, de plus en plus parfaits, jusqu'à l'acte d'obéissance parfaite de Gethsémani, qui accepte la croix pour notre salut. Mais tout découle de ce premier moment. Pour nous, c'est le contraire. Pour nous, nous avons une participation progressive de type habituel, par l'habitus de grâce, qui va nous configurer lentement, et nos actes vont faire que Dieu va pouvoir nous donner une participation plus grand dans l'habitus de la grâce, dans l'habitus de la charité, la croissance de la charité, et c'est ainsi que nous allons nous être divinisés. Pour nous, l'union est au terme. Pour le Christ, l'union est au commencement. Et on n'insistera pas jamais assez sur cela. Le Christ n'est pas un homme divinisé, le Christ, c'est Dieu fait homme, c'est le Fils de Dieu fait homme. Donc, tout est donné au départ. Ce qui se passe, c'est qu'ensuite, le Christ est venu pour nous diviniser, nous, et donc il a accompli des actes de plus en plus parfaits au cours de sa vie terrestre, jusqu'à l'offrande totale de lui-même sur la croix. Mais ça, ce n'est pas un perfectionnement de lui dans son union avec Dieu, mais un perfectionnement de lui comme instrument de notre salut. On trouve effectivement le thème de perfectionnement du Christ dans l'Épître aux Hébreux, hein, après avoir été rendu parfait, etc., il est devenu grand prêtre et tout ça. Mais c'est une perfection sacerdotale, c'est une perfection instrumentale. Le Christ a posé des actes de plus en plus parfaits, non pas qu'il unissait de plus en plus à Dieu, mais qui, par lesquels il accomplissait de plus en plus parfaitement le dessein rédempteur de Dieu pour les hommes. C'est important ça, parce que c'est sur ce point qu'aujourd'hui il y a beaucoup de confusion, et où on veut mettre dans le Christ le cheminement de foi, de progrès, de sanctification, etc., qui est celui d'un pur homme finalement. Numéro 24. Que cette volonté humaine du Christ ait été complètement divinisée, donnant son consentement à la volonté divine elle-même, par laquelle et selon laquelle elle était toujours mue et marquée, cela apparaît évident par le fait qu'elle a accompli parfaitement cela seul que le Père avait décidé. Conformément à ses décisions, c'est en tant qu'homme qu'il a dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. 25, le vouloir délibératif, gnomique, et le désir et le mouvement autonome de la délibération vers un côté ou l'autre. Cette autonomie caractérise l'exercice personnel de la volonté. Maxime dit, le libre arbitre délibératif est un désir autonome qui fait incliner de part et d'autre et qui ne définit pas la nature, mais proprement la personne et l'hypostase. Et enfin, le numéro 26, Maxime dit, j'ai dit élection, mais en sachant que si le Créateur des hommes s'est fait homme pour nous, c'est certainement pour nous aussi qu'il a rétabli l'immutabilité de l'élection. Cette immutabilité de l'élection qui pour lui est à l'origine même de son être par l'union hypostatique, pour nous, c'est cette immutabilité de l'élection, c'est ce qui s'établit progressivement en étant mu de plus en plus par le Saint-Esprit et donc devenant étranger au péché et de plus en plus connaturalisé jusqu'au bien, par le bien. Et ça ne s'accomplit de manière irréversible que quand nous voyons Dieu, quand nous entrons dans la vision béatifique. Donc pour nous aussi qu'il a rétabli l'immutabilité de l'élection, puisqu'il est l'auteur de l'immutabilité, en tant qu'il a accepté essentiellement et volontairement et de plein gré et en ayant l'expérience, les souffrances de notre châtiment, tandis qu'il prenait sur lui miséricordieusement par appropriation celle de notre culpabilité. L'appropriation est devenue la cause qui permit au genre humain d'être libéré de la passion dans l'élection. Et l'expérience, le Christ l'a donné comme gage certain de l'incorruptibilité qui en résulte. Je voudrais terminer en vous lisant peut-être quelques lignes du Père Lethel. Chez Maxime, dit-il, donc c'est dans la théologie de l'agonie du Christ, page 129, et repris dans mon livre à page 137. Chez Maxime, l'accent est mis sur le tropos, sur le mode personnel de la volonté. Les catégories de gnomé et de proaïresis, qui désignent chez les personnes humaines le niveau de la volonté libre, ne peuvent pas être appliquées au Christ. Pourtant, la volonté libre est clairement reconnue en cet acte suprême qu'est le fiat de l'agonie. Elle est affirmée comme vraiment humaine. L'exclusion de l'agnomé fait donc ressortir le caractère indicible du tropos, du mode d'exister par lequel cette liberté humaine est celle du propre Fils de Dieu. Chez saint Thomas, l'accent est mis plus sur le logos, le principe de la nature. La voluntas ut ratio et le libre arbitre sont considérés dans la ligne de la nature humaine comme une propriété de la nature humaine. La liberté humaine du Christ peut donc, jusqu'à un certain point, être comprise et exprimée dans nos catégories. Et vous voyez que Maxime est plus, à cause de l'accent sur le tropos, la volonté du Christ. Est-ce que je peux. Son exercice est tellement différent du mien, d'une autre, que la dimension de théologie négative, comme toujours chez les pères orientaux, est plus forte. On voit plus le mystère, que la volonté du Christ est mystérieuse, finalement. Parce qu'elle a, non pas parce qu'elle a le même ressort naturel que la nôtre, mais elle est exercée d'une manière. Mais d'une manière que nous comprenons au fur et à mesure que nous nous sanctifions, si vous voulez, puisqu'au fond. Tout le processus de la divinisation du chrétien va être le processus d'une assimilation, une ressemblance de plus en plus avec cette volonté filiale, cette obéissance filiale du Christ dans le Saint-Esprit. Mais chez nous, par les dons du Saint-Esprit, par tout cela, de manière habituelle, je veux dire, pas de manière directement à partir de notre être, parce que nous ne sommes pas une personne divine. Nous devenons opérativement ressemblant à la personne du Christ, du Fils fait homme, mais nous ne le sommes pas. C'est personne divine, si on n'est pas d'origine, on ne devient pas une personne divine. C'est loupé d'avance, vous voyez. pour ça que de dire que le Christ devient progressivement Dieu, ça n'a aucun sens. Voilà, moi j'ai terminé ce que je voulais vous dire sur la... Alors, resterait, il y a des choses très intéressantes dans le prolongement de cela. J'ai fait quelques allusions à la question de la connaissance, mais alors c'est surtout la grâce de l'adoption filiale. Comment ce tropos va, par le biais de la grâce capitale, de la grâce habituelle du Christ, devenir notre assimilation, notre filialisation, notre adoption filiale en grâce. Bon, ça, si on va voir ce que durent vos questions, s'il reste encore du temps, je vous ferai lire quelques textes de Maxime. Mais je vous donne maintenant la parole. Donc nous avons ce qui reste de l'heure. On a jusqu'à quand là, on a commencé. Okay, peut-être que nous pourrions, si vous êtes d'accord, on pourrait peut-être faire la pause maintenant, prendre 10 minutes maintenant et avoir un temps plus long après, puisque là nous sommes un peu à la fin de l'étude de la volonté, et donc pour passer dans une partie de questions. Ça va? Ça ne pose pas de problème?